Prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles que nous allons écouter, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser. Nous avons deux lectures ce matin. Notre première lecture se trouve dans le livre de la Genèse. Nous sommes après le déluge, lorsque Noé est sorti de l'arche avec sa famille et tous les animaux. Dieu établit avec lui une alliance, alliance avec l'humanité, mais aussi avec toute la création. C'est une alliance cosmique. Nous lisons donc dans Genèse 9, les versets 8 à 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Amen. Notre deuxième et dernière lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Dans le même chapitre du passage que nous allons lire, Paul a préalablement parlé de la vie chrétienne selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Il parle ensuite de la gloire à venir des enfants de Dieu et de la création et de l'amour de Dieu qui remporte la victoire quoi qu'il arrive. Nous lisons dans Romains 8, les versets 28 à 34. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen.
Frères et sœurs, le passage du chapitre 8 de l'Épître aux Romains que nous avons entendu est d'une telle densité qu'il nous faudrait le lire et le relire plusieurs fois avant de bien le saisir, de bien le comprendre. Luther disait de l'Épître aux Romains que c'était la partie centrale du Nouveau Testament, la clé d'or des Écritures. Un autre théologien a dit que c'était la cathédrale de la foi chrétienne. Un autre encore, que c'était le travail le plus profond qui existe. C'est donc avec beaucoup d'humilité que nous nous penchons ce matin sur ce passage particulier de l'Épître et que nous y cherchons notre nourriture spirituelle pour ce dimanche. Je vais relire les trois premiers versets que nous avons entendus, les versets 28, 29 et 30, sur lesquels porteront notre méditation. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu vas t'en sortir. Ça va aller. Les choses vont s'arranger, tu verras. Etc. Voilà des formules que tout à chacun prononce. Pas besoin d'être chrétien pour être optimiste et croire en des lendemains meilleurs. Il y a fondamentalement en l'être humain une foi innée en la vie et une capacité à surmonter les épreuves, que l'on soit croyant ou pas. Il y a aussi en l'être humain une forme de superstition. Du style, si je prononce des paroles positives, cela pourrait arriver. Quelque chose comme ça. Avant le passage de Romains 8 que nous avons lu, Paul parle du Saint-Esprit et de son rôle dans la vie du chrétien, particulièrement dans les moments de souffrance et de douleur. Il a lui-même, Paul, vécu bien des moments terribles, où il a failli perdre la vie, persécution, naufrage en mer, emprisonnement, tout ça au pluriel. Sa vie d'apôtre n'a pas été un long fleuve tranquille. Paul est un homme qui a vécu, qui a souffert, et c'était cet homme-là qui s'exprime. Nous savons du reste que toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Autre traduction, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc Dieu a un plan. Un plan pour ceux qu'il aime. Cette parole n'est pas une parole qui s'adresse à l'humain universel. Elle est située, elle s'adresse à celles et ceux qui aiment Dieu, qui l'ont choisi pour maître de leur vie, qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Paul est très clair. À eux, Paul dit que toutes choses concourent à leur bien. Et que donc leur vie, tout ce qui leur arrive, n'est pas absurde ou le fait du hasard, mais s'inscrit dans ce que Dieu désire pour eux, selon sa bonté. Alors bien sûr, quand tout va bien, il nous est facile de dire que ce qui nous arrive contribue à notre bien. Un beau mariage, un bon travail, une belle maison, la santé de nous-mêmes et de nos proches, des loisirs qui nous font plaisir, que sais-je encore ? Serait-ce cela la bénédiction, le bien que Dieu veut pour nous ? Ou plutôt, serait-ce seulement cela ? Mais qu'en est-il alors des maladies qui nous tombent dessus ? Des drames, comme la perte d'un enfant ou d'un parent dans un accident ? Des longs tunnels de chômage ? Des choses qu'on désire tant et qui n'arrivent jamais ? De la dégradation de notre santé ? Du fait de vivre dans un pays en guerre, de notre fille ou notre fils qui ne nous parle plus depuis des années, de la violence conjugale. Je ne peux pas faire ici la liste exhaustive des maux auxquels l'humanité est confrontée. Mais oui, qu'en est-il ? Est-ce que ces choses concourent vraiment, contribuent vraiment à notre bien ? Est-ce que, Seigneur, tu veux vraiment mon bien quand la peine et l'incompréhension étreignent mon cœur, quand la souffrance assaille mon corps ? Eh bien oui, dit Paul. Dieu sait. Dieu permet. Dieu a son chemin. Parce que, au fait, c'est quoi le bien ? C'est quoi le bien que Dieu veut pour ses enfants ? Si nous définissons le bien par la santé, la sécurité matérielle et affective, et des choses équivalentes, si donc le bien pour nous, notre bien est ça, alors nous raisonnons comme ces chrétiens pour qui l'Évangile, c'est la prospérité. Vivre avec Dieu, c'est la porte qui ouvre la réussite, la guérison, la richesse matérielle. C'est faire de Dieu un distributeur de bonbons bien sucrés. C'est utiliser Dieu pour notre bien-être. Et c'est limiter notre vision, notre compréhension du monde et de la vie à ce qui est visible, à ce qui se joue dans ce monde. Or, nous dit Paul, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Cela veut dire que le bien que Dieu veut pour ses enfants, pour ceux qu'il aime, c'est d'être semblable à l'image de son Fils. Et donc tout ce qui nous arrive, de beau comme de laid, de bon comme de mauvais, de réjouissant comme d'accablant, tout est un chemin pour nous conduire à ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Le bien ne consiste pas en notre confort, notre opulence, notre santé, il consiste à notre conformité au Christ. Et Paul développe, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a donc au bout du chemin de la vie du chrétien, la gloire. Cette gloire que Dieu a donnée à son Fils, Jésus, après sa mort et sa résurrection, eh bien, Dieu veut associer ses enfants à cette gloire. Cet état où l'on est totalement dans la présence de Dieu et plus du tout atteignable par la mort, la corruption de la chair, un état de salut total, de restauration complète de notre être. Être conforme au Christ, être semblable à lui, c'est le chemin de notre vie chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Cela veut dire porter notre croix comme il l'a portée, endurer dans la foi et l'espérance les épreuves, même les plus dures. Cela veut dire vivre une vie de service plutôt qu'une vie pour soi. Aimer, même quand c'est dur. Être capable de pardonner, comme il l'a fait sur la croix alors qu'il agonisait. Père, pardonne-leur. Et ma foi, c'est en connaissant Jésus de mieux en mieux, à travers les Écritures, que nous pourrons conformer notre vie à la sienne. C'est un chemin. Alors oui, Dieu se sert du présent, de tout ce qui nous arrive, pour nous faire ressembler à son Fils. Les bénédictions, comme les épreuves, sont notre chemin de transformation. Il nous faut nous rappeler chaque jour que notre vie sur cette terre est limitée dans le temps, mais que nous sommes destinés à hériter l'éternité de Dieu pour vivre dans sa gloire avec le Christ, notre frère aîné. Notre horizon ne peut pas être seulement ce monde, mais le royaume de Dieu, où tout sera accompli lorsque le Seigneur reviendra. Oui, les bombes et les missiles du présent cesseront. La folie des hommes cessera. Le mal sous toutes ses formes cessera. Vaincu à la croix, il mène encore des batailles, mais il sera alors pleinement anéanti. Et pour ceux qui auront tenu bon, pour ceux qui n'auront pas mis toute leur espérance dans les choses de ce monde, pour ceux qui auront vécu leur vie en voulant ressembler à Jésus, alors la gloire, la présence infinie et éternelle de Dieu sera donnée. Paul dit quelques versets avant notre passage, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Frères et sœurs, tout passera. Tout. Mais la gloire de Dieu demeurera éternellement et nous embrassera avec elle. L'histoire de Noé et du déluge, qui se termine par l'alliance de Dieu pour Noé et ses descendants, ainsi que pour toute la création, est comme une métaphore de notre texte. Dieu a connu Noé d'avance, lui qui aimait Dieu et qui était juste et droit devant lui. Il l'a appelé, il l'a sauvé. Il l'a glorifié, en quelque sorte. Noé a conformé sa vie à l'image de Dieu. Il est passé par le déluge, mais il en ressort béni et au bénéfice d'une alliance avec Dieu. Oui, il y a un mystère dans tout cela. Pourquoi nous ? Nous ne pourrons jamais comprendre totalement le plan de Dieu. Et bien des choses nous échappent. Mes frères et sœurs, il nous faut croire et accepter que toute chose concourt à notre bien, même si nos yeux ne le perçoivent pas. Croire que Dieu a son plan. qu'il nous conduit et nous accompagne, qu'il nous façonne pour ressembler à son Fils, et qu'il nous réserve la gloire finale auprès de lui. Amen.